Il est 12h31. Thomas Cluzel, le journal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous.
Ce stade, on ne sait pas bien.
Reprise, relance, reconstruction à moins de 2 ans de l'échéance présidentielle. Emmanuel Macron a préparé hier soir les Français à une nouvelle étape de son quinquennat. En attendant, le président aura surtout achevé plus tôt que prévu le déconfinement en annonçant que toute la France, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, était désormais colorée de vert. Et puis avec cette accélération, les crèches, les écoles et les collèges fonctionneront de nouveau à plein et de manière obligatoire à partir du 22 juin. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Audrey Chanona, principale adjointe au collège Missy à La Roche. La Commission européenne l'avait souhaité, les États européens se mettent en ordre de marche depuis ce matin pour rouvrir leurs frontières intérieures. Reste que si cet assouplissement s'annonce moins chaotique que les fermetures décidées souvent sans concertation avec les pays voisins, l'unanimité n'est pas encore de mise. Enfin, une atteinte de plus aux libertés de la presse dans un pays, les Philippines, où le pouvoir politique ne supporte décidément pas les critiques. Ce matin, Maria Ressa, journaliste, a été condamnée pour avoir publié en ligne des articles contre la politique du très controversé chef de l'État Rodrigo Duterte. 3 mois après avoir déclaré la guerre au coronavirus, Emmanuel Macron a donc proclamé hier soir une première victoire contre l'épidémie en décrétant notamment le passage de toute la France métropolitaine en zone libre, comprenez en zone verte. Depuis ce matin, tous les lieux publics, tous les restaurants et les cafés ont rouvert sur l'intégralité du territoire hexagonal, les seuls points de vigilance demeurant à Mayotte et en Guyane. Ou quand face à des indicateurs sanitaires encourageants et répondant aux appels par ailleurs de plus en plus pressants accélérer le tempo, le chef de l'État s'est d'abord attaché hier à tourner la page du premier acte de la crise, avant de dessiner un nouveau chemin pour la suite, l'acte 3 de son quinquennat, axé sur un triptyque, l'écologie, la souveraineté et la solidarité. Reste qu'avant de bâtir donc un nouveau modèle économique, des questions beaucoup plus immédiates demeurent. En l'occurrence, comment préserver autant que possible les entreprises et l'emploi au milieu de ce qui s'annonce d'ores et déjà comme la pire récession traversée par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, sans pour autant augmenter les impôts? Sur ce point, la réponse d'Emmanuel Macron pourrait se résumer ainsi, travailler davantage. Alors que cela signifie-t-il? Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a bien tenté de préciser les choses. Travailler davantage, ça veut dire que le plus grand nombre de Français puissent trouver un travail. Ce qui, on l'imagine, était probablement déjà la priorité du gouvernement avant l'épidémie. Pas certain dès lors que cela soit de nature à rassurer et surtout convaincre des salariés toujours englués dans la torpeur d'un déconfinement très progressif. Alors que faut-il comprendre? Élément de réponse avec Catherine Pétillon.
À ce stade, on ne sait pas bien quelles seront les traductions concrètes, car du côté de l'exécutif, il y a beaucoup de communication, de désaccords interministériels, de coups de sonde aussi, alors qu'un certain nombre de sujets sont en ce moment même en discussion avec les partenaires sociaux. Faudra-t-il travailler plus? C'est ainsi que beaucoup de syndicats ont compris hier les propos d'Emmanuel Macron. En pratique, cela pourrait passer par exemple par de nouvelles exonérations de charges sur les heures supplémentaires. C'est en tout cas une demande des organisations patronales que de baisser le coût pour les entreprises du travail supplémentaire de leurs salariés. Les ministres ont fait ce matin de l'explication de textes variés. Gérald Darmanin a ouvert la piste d'une augmentation du temps de travail en renvoyant cela à d'éventuelles négociations d'entreprises. On ne va pas décider du temps de travail des Français au niveau national, a-t-il estimé ce matin. Autre son de cloche du côté du ministre de l'économie. Bruno Le Maire a de son côté écarté la piste de congés au moins et donné son interprétation, relativement sibylline aussi, des propos d'Emmanuel Macron. Pour lui, cela veut dire travailler tous. C'est-à-dire que le plus grand nombre de Français puissent trouver un travail dans une période où nous anticipons 800 000 suppressions d'emplois, a-t-il précisé. Parmi les outils destinés à atténuer le choc, il y a le chômage partiel, un temps envisagé. La piste d'une nouvelle baisse des aides aux entreprises a été écartée, annonce ce matin le ministère du Travail. Le dispositif devrait donc rester en l'état jusqu'à septembre. Des annonces sur l'emploi des jeunes sont par ailleurs attendues au début de l'été.
Alors, tandis que s'amoncellent les nuages économiques et sociaux, le chef de l'État, on l'a dit, se sera beaucoup projeté hier sur l'après-crise sanitaire. Chacun d'entre nous doit se réinventer, a-t-il notamment répété, avant d'afficher son objectif, celui d'une reconstruction sociale et solidaire, presque un avant-thème de campagne présidentielle. Ou dit autrement, le discours de relance d'Emmanuel Macron hier soir valait sans doute aussi bien pour l'économie du pays que pour sa présidence, ce que les oppositions de tous bords d'ailleurs ont bien compris, elles qui ont aussitôt critiqué Pierre Neveu, un exercice d'autosatisfaction.
Il faut être fier, il n'y a pas à rougir. Les mots d'Emmanuel Macron pour saluer la gestion de crise ne trouvent pas d'écho favorable dans l'opposition. Une classe politique qui reste d'ailleurs sur sa faim, sachant qu'il faudra attendre le grand discours du mois de juillet pour en savoir plus sur les grands chantiers qu'Emmanuel Macron veut ouvrir jusqu'à la présidentielle. En attendant ce projet qu'il dessine pour demain, Aurélien Pradier, député du Lot, dénonce un exercice d'autosatisfaction du chef de l'État sur le déconfinement. Bref, pour le secrétaire général des Républicains, Emmanuel Macron est devenu plus un problème pour notre pays qu'une solution. Nous attendons des actes, plus que des mots, renchérit Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Concernant les critiques mémorielles qui ont vu le jour depuis plus de deux semaines, Emmanuel Macron explique que la France doit assumer son histoire sans déboulonner ses statuts. D'accord, lui répond ce matin Marine Le Pen, qui souligne qu'il n'y a pas de discrimination raciale en France, mais des discriminations sociales. Et puis, il n'y a pas que la classe politique qui se montre particulièrement critique au lendemain de ce discours. L'appel à travailler et produire davantage du président de la République ne laisse pas indifférent le secrétaire général de la CFDT. Attention, dit Laurent Berger, si travailler tous consiste à faire travailler plus longtemps ceux qui ont gardé leur emploi, c'est totalement inepte. En somme, un travailler plus pour payer la crise, sans pour autant augmenter les impôts, précise le chef de l'État. On le voit, ce discours qui dessine un grand projet sera dès demain balayé par la forte mobilisation des soignants qui descendent à la rue, et puis aussi par la première audition de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de Covid-19.
Alors Emmanuel Macron tâcherait-il de couper l'herbe sous le pied de l'opposition, bousculé par un nouveau front, celui des manifestations contre le racisme et les violences policières? Le chef de l'État a également prêché hier l'unité autour du patriotisme républicain, manière, diront certains, de préempter le discours national. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté, a encore déclaré Emmanuel Macron avant de préciser cet ordre. Ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assure. Pas de quoi convaincre visiblement les forces de l'ordre. Quelques heures seulement après l'allocution du président, gyrophares allumés et sirènes hurlantes, plusieurs centaines de policiers se sont encore rassemblés hier soir pour protester contre les dernières annonces gouvernementales. Alors avant le scrutin présidentiel, les prochaines échéances concernent les municipales. Le second tour est fixé au 28 juin. La campagne officielle a d'ailleurs débuté dès ce matin pour les 4900 communes concernées, c'est-à-dire celles dont le maire n'a pas été élu dès le premier tour. Et bien évidemment, compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui n'a pas encore complètement disparu, eh bien, cette campagne, Stéphane Robert, s'annonce très particulière.
Si la campagne officielle débute aujourd'hui, elle a en réalité démarré il y a quelques jours déjà. Et la grande difficulté pour les candidats est qu'il faut prendre contact, nouer des liens, sans trop approcher les électeurs potentiels. Dans ces conditions, le porte-à-porte est proscrit et les outils numériques privilégiés. Certains ont créé des web TV, des télévisions sur Internet. D'autres se montrent très actifs sur les groupes Facebook et les réseaux Twitter. La difficulté avec les réseaux sociaux est que les candidats s'adressent à ceux qui les suivent déjà et donc essentiellement à des électeurs potentiels qu'ils ont déjà convaincus, et il est très difficile d'élargir le cercle au-delà. Et donc ça ne suffit pas, ils doivent aussi recourir à des techniques plus classiques. Le tractage dans les boîtes aux lettres, par exemple, devrait particulièrement s'intensifier dans les jours à venir. D'autres essaient d'organiser des réunions d'appartements, la difficulté étant de convaincre des personnes qu'ils ne connaissent pas ou très peu de venir les écouter dans un lieu aussi confiné. Il y a également les marchés, lieux de rencontres privilégiés en campagne électorale, mais compte tenu des règles de distanciation, ça se complique très vite. Par exemple, un candidat doit porter un masque pour s'adresser à quelqu'un sans le faire fuir, mais du coup, l'expression de son visage est en partie dissimulée et sa capacité de conviction en est grandement atténuée. Autre difficulté, quand il aborde quelqu'un, il ne peut pas rester planté, statique, au milieu de l'allée. Il doit convaincre son interlocuteur de l'écouter tout en marchant à ses côtés. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs indiqué il y a des jours qu'il est possible d'organiser des réunions publiques en respectant bien évidemment les gestes barrières et les distances préconisées. La question est de savoir qui et surtout combien de personnes sont prêtes à y participer.
Et j'ajoute que c'est encore dans ce contexte qu'une enquête IFOP diffusée aujourd'hui nous apprend que moins de 4 Français concernés sur 10, 38% des personnes interrogées envisageraient d'aller voter, un taux encore inférieur à celui du premier tour. Toujours s'agissant de cette accélération à l'œuvre du déconfinement, le système scolaire reprendra son fonctionnement d'avant Covid le 22 juin, plus exactement à cette date largement symbolique, puisque très proche en réalité des vacances d'été, les crèches, les écoles et les collèges fonctionneront de nouveau à plein. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Audrey Chanona, principale adjointe au collège Missy à La Rochelle et par ailleurs membre de l'exécutif syndical national du SNPDEN UNSA. Bonjour madame.
Bonjour.
Jean-Michel Blanquer l'a donc précisé ce matin, le protocole sanitaire sera allégé dans les écoles à partir de lundi. En clair, il ne sera plus nécessaire de respecter une distance de 4 mètres carrés. À la place, il faudra une distance d'un mètre latéral entre chaque élève. Vous réjouissez-vous de pouvoir accueillir plus d'élèves ou bien est-ce que vous dites en somme que cela va être compliqué à organiser ?
Écoutez, un peu des deux. La place des élèves, c'est évidemment à l'école et en face de leurs enseignants. Donc oui, on ne peut que se réjouir d'accueillir davantage d'élèves. En revanche, le SNPDEN a sollicité l'accompagnement du ministre sur l'allègement du protocole sanitaire, puisque ce qui a été pour l'instant annoncé est toujours très compliqué à mettre en place dans les établissements.
Concrètement, comment allez-vous vous organiser dans votre collège pour être prêt dès lundi ?
Alors, il est encore un peu difficile de répondre à votre question. Nous ne sommes qu'à un petit peu plus de 12 heures des annonces de notre président de la République. Nous avons encore une semaine pour nous organiser. Cette semaine sera absolument nécessaire pour remettre les établissements en état de marche afin d'accueillir tout le monde. Donc, il m'est encore un peu difficile de répondre à votre question, mais nous y travaillons bien évidemment.
Est-ce que vous avez en revanche déjà des retours peut-être sur cette réouverture qu'en disent par exemple les professeurs de votre collège ?
Alors là, c'est exactement la même chose. On attend encore leur réaction. Eux aussi sont contents de retrouver leurs élèves. Ça a été le cas au moment du déconfinement. Ils se posent les mêmes questions que vous et moi en ce moment sur les conditions d'accueil.
Alors peut-être allez-vous me dire que vous n'avez toujours pas la réponse, mais qu'en sera-t-il par exemple des enseignants autorisés à s'absenter pour raisons de santé ? Je ne sais pas si c'est le cas dans votre collège. D'éventuels remplacements sont-ils prévus ?
Alors, c'est une des questions que nous avons posées de manière expresse au ministère aujourd'hui, puisque nous n'avons toujours pas la réponse, j'en suis désolée, mais c'est une des questions essentielles auxquelles il faudra qu'on réponde très très vite pour assurer les conditions d'accueil la semaine prochaine.
Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a expliqué que ces deux semaines de scolarisation seront des semaines importantes en préparation de la rentrée. Est-ce que c'est cela qui justifie d'obliger donc les enfants à reprendre le chemin de l'école pour 15 jours ?
En tout cas, ça paraît évident. Et je crois qu'il faut qu'on voit ces deux semaines comme une répétition générale, si vous me permettez cette expression, pour voir un petit peu dans quelles conditions on pourra accueillir tout le monde à la rentrée prochaine. Je pense que c'est une idée importante.
Selon vous, ça vaut le coup, j'allais dire, donc de mettre en place toute cette organisation pour seulement deux semaines ?
Alors, on est assez proche de la fin de l'année scolaire. Ce signifie que les établissements, plus particulièrement les collèges, sont déjà dans l'organisation des conseils de classe, des procédures d'orientation, de la gestion des examens. Donc, d'habitude, à cette époque-là, nous ne sommes pas dans cette gestion-là. Par contre, je pourrais quand même vous dire que tout ce qui va en direction des élèves, en direction de leur reprise et de leurs apprentissages, ne peut être que positif, y compris sur cette fin d'année.
Merci Audrey Chanona, principale adjointe au collège Missy à La Rochelle, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes également membre donc de l'exécutif syndical national du SNPDEN UNSA. C'est aujourd'hui que la justice doit rendre sa décision dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi. Au total, 6 hommes, un industriel, 3 politiques et 2 intermédiaires jugés pour des soupçons de commission occulte en marge de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur seront fixés sur leur sort. En octobre dernier, le parquet de Paris avait requis des peines allant de 18 mois ferme à 7 ans de prison. Précisons en revanche que la justice ne se prononcera pas cet après-midi sur un éventuel lien de causalité entre l'arrêt du versement de ces commissions et l'attentat de Karachi en 2002. Thèse défendue par les familles de victimes, ce volet est lui l'objet d'une enquête antiterroriste toujours en cours. Jusqu'à présent, son utilisation n'était que tolérée pour lutter contre la dépendance à l'alcool dont souffriraient près de 2 millions de personnes en France. Et bien depuis aujourd'hui, le baclocure, ce traitement à base de baclofène, la fameuse molécule miracle censé permettre à certains patients donc de se débarrasser de leur addiction, est autorisé à la commercialisation. Le résultat t'arrache les gueules de plusieurs années de combat.
Depuis 10 ans, un long travail est en cours, rappelle le psychiatre Jean-Michel Delisle, qui préside la Fédération Addiction, pour faire changer les mentalités face à l'alcool.
Il y a beaucoup de personnes dans les autorités du médicament qui ne sont pas convaincues qu'il s'agisse réellement d'une maladie, qui voit plutôt un problème de volonté schématiquement et qui donc se demande ce que viendrait faire un médicament dans cette affaire. Et quand a fortiori on indique que le médicament ne vise pas à atteindre l'abstinence totale, mais vise à aider des personnes qu'ils souhaitent à réduire leur niveau de consommation, retrouver un peu de liberté par rapport à leurs usages, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une relative incompréhension.
Pourtant, en 2014, les défenseurs du baclofène obtiennent une recommandation temporaire d'utilisation, mais pas de mise sur le marché. Le laboratoire qui veut vendre son baclocure présente alors un dossier qui s'appuie sur deux études controversées. L'une conclut même qu'il n'a pas plus d'utilité qu'un placebo.
Généralement, quand un dossier est instruit de cette manière, c'est sûr que le médicament ne verra jamais le jour, qu'il ne sera jamais autorisé. Et là, ce qui est quand même bien, c'est que la direction de l'Agence du médicament, manifestement, a été très sensible aux avis des cliniciens, des patients, a été très sensible aux données qui apparaissaient dans un certain nombre d'études européennes plutôt favorables, et a pu s'émanciper des rigidités administratives habituel, disons, pour arriver à prendre une décision qui était évidemment une très grande avancée pour les patients.
Il a fallu du courage, résume Jean-Michel Delisle, pour que l'agence contourne un avis négatif d'un comité d'experts et nomme une commission qui finalement tranchera en faveur du baclocure.
On l'avait presque oublié tant le coronavirus a envahi aujourd'hui tout l'espace et pourtant la négociation post-Brexit dont le calendrier va s'accélérer est toujours dans l'impasse. Les dirigeants de l'UE espèrent profiter d'une visioconférence aujourd'hui avec le Premier ministre britannique Boris Johnson pour lui donner un nouveau souffle. En réalité, sauf coup de théâtre de l'imprévisible Boris Johnson, cette conférence devrait surtout servir à constater les difficultés. En l'occurrence, et après 4 cycles de discussions depuis mars, l'état des lieux est plutôt simple à résumer. Britanniques et Européens continuent de camper sur des positions irréconciliables, empêchant tout progrès. Un peu, beaucoup ou pas du tout, si depuis ce matin les contrôles aux frontières intérieures de l'Europe imposés par la crise du Covid-19 font officiellement partie du passé. Le retour à la libre circulation se fait toutefois en ordre dispersé. Des exceptions demeurent en fonction des situations sanitaires différentes et dans certains cas, l'accueil ne se fera pas forcément à bras ouverts. Chaque pays en réalité a composé sa propre liste de zones à risque sur laquelle d'ailleurs la Suède et la Grande-Bretagne notamment figurent invariablement. Petit tour d'horizon donc de la possibilité ou non de voyager plus facilement sur le continent, signé Marie-Pierre Véraud.
La carte de l'espace Schengen reste multicolore avec des feux verts, orange ou rouge selon son origine et sa destination. Cartes qui se déclinent aussi en sous-ensembles, qui ont rouvert les frontières entre eux comme les pays baltes ou certains pays d'Europe centrale, mais rechignent encore à accueillir tous les Européens. La situation s'est cependant apaisée avec nos proches voisins, hormis les Britanniques, quarantaine toujours obligatoire. Belgique et Pays-Bas marchent au même rythme que la France, l'Allemagne a finalement rouvert dès hier soir et l'Espagne n'attendra pas le 1er juillet. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 21 juin pour traverser les Pyrénées sans souci ni quarantaine. L'Italie avait-elle devancé l'appel dès le 3 juin ? Il faut sauver la saison touristique. La Grèce également attend les touristes étrangers, mais attention, si l'on vient d'Île-de-France, par exemple, dépistage obligatoire. À l'Est, la Pologne ouvre les bras aux Européens, mais pas la Tchéquie, qui a élaboré une carte selon les origines des voyageurs, quand la Roumanie reste fermée jusqu'à nouvel ordre. L'Autriche discrimine également en fonction de la nationalité, pas d'Espagnol, de Suédois ou de Britannique, par exemple. Au nord du continent, le Danemark n'accueille que les Allemands, Norvégiens et Islandais. L'Islande, justement, qui rouvre ses frontières, mais maintient un test obligatoire à l'arrivée. Il sera offert par le gouvernement jusqu'au 1er juillet.
Alors, tandis que l'Europe rouvre aujourd'hui ses frontières intérieures, au même moment en Chine, l'apparition de dizaines de nouveaux cas pour le 2e jour consécutif nourrit la peur d'une nouvelle vague de la maladie. Le nouveau foyer de contamination dans le sud de la capitale est apparu au sein d'un marché de gros qui vend notamment de la viande et du poisson, une situation étrangement similaire aux origines présumées de l'épidémie initiale qui avait démarré, on s'en souvient, dans un marché d'animaux et de fruits de mer à Wuhan à la fin de l'année dernière. Hier, Pékin a annoncé 57 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures, soit le plus haut chiffre quotidien depuis le mois d'avril. Dès lors, ce rebond marquerait-il le début d'une deuxième vague ? C'est une correspondance signée Dominique André.
Pékin est en état de guerre, vient de déclarer Xu Ying, l'un des responsables du Parti communiste de la capitale chinoise. 100 000 employés sont mobilisés dans le combat, a ajouté M. Xu lors d'une conférence de presse. Depuis hier, la ville organise 2 conférences quotidiennes pour informer les 21 millions de Pékinois qui s'inquiètent de ce rebond dans l'épidémie. Depuis la fin mars, la ville de Pékin n'avait enregistré aucun nouveau cas. L'épicentre est établi dans le sud de la ville, sur le marché de Xifandi, le plus gros marché alimentaire d'Asie où travaillent 8000 employés. Ils ont tous été placés en quarantaine collective. La ville a réagi très vite et a déjà recensé les 200 000 clients qui ont fréquenté le marché depuis la fin du mois de mai. Une campagne de dépistage massif est en cours. Près de 9 000 clients ont déjà été dépistés avec des résultats négatifs pour les 2/3. Mais le risque de propagation est très élevé, a mis en garde un porte-parole de la municipalité. Les mesures de contrôle ont été renforcées dans toute la ville.
Aux Philippines, on savait déjà combien l'indépendance du système judiciaire depuis longtemps entaché de soupçons de corruption avait été particulièrement mise à mal depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 du président Rodrigo Duterte. Idem s'agissant de la liberté de la presse, et c'est ainsi qu'on a appris ce matin la condamnation, sans surprise, par un tribunal de Manille d'une journaliste, Maria Ressa, déclarée coupable de diffamation contre un puissant homme d'affaires. Elle risque désormais jusqu'à 6 ans de détention. Une procédure à la finalité bien comprise, réduire aujourd'hui au silence tous les détracteurs du chef de l'État. Les précisions à Manille de la correspondante de RFI pour France Culture, Marianne Dardard.
À la tête du site d'information Rappeleur, souvent critique à l'égard du président Duterte et de sa guerre anti-drogue, le cas de Maria Ressa est emblématique d'une répression de plus en plus dure. En 2012, soit 4 ans avant l'élection de Rodrigo Duterte, Rappeleur avait enquêté sur les liens entre un homme d'affaires et un magistrat de la Cour suprême. Et c'est à la suite de cet article que cet homme d'affaires avait porté plainte pour diffamation contre Maria Ressa. Depuis 1 an, la journaliste est poursuivie au total dans 8 affaires, accusant Rappeleur d'évasion fiscale ou d'être financée par des fonds étrangers. Le jugement de ce matin, présenté comme un test pour la liberté de la presse, est le premier rendu. Accusé d'avoir orchestré ce que les défenseurs des droits de l'homme qualifient d'acharnement judiciaire, le gouvernement philippin répète que cette affaire n'est pas politique. Mais à plusieurs reprises, le président Duterte a cependant menacé Rappeleur jusqu'à interdire aux journalistes de cette rédaction de couvrir ces événements publics. Maria Ressa encourt jusqu'à 6 ans de prison.
En Algérie, la répression contre le Irak s'intensifie. 3 nouvelles figures du mouvement de contestation anti-régime ont été interpellées hier. Il s'agit d'un journaliste et de 2 militants des droits de l'homme. Craignant une reprise des manifestations avec le début du déconfinement, les autorités algériennes ont multiplié ces derniers jours les arrestations. La veille déjà, 3 autres militants du Irak avaient été incarcérés après avoir tenté de participer à un rassemblement de soutien aux prisonniers politiques. Puis on vient de l'apprendre, un avion de chasse de l'armée américaine basé au Royaume-Uni s'est écrasé ce matin en mer du Nord lors d'une mission d'entraînement de routine avec un pilote à bord dont le sort reste inconnu, de même d'ailleurs que la cause du crash. On termine avec un mot de météo. Du Roussillon au Var et à la Côte d'Azur, en moyenne vallée du Rhône ainsi qu'en Corse, le soleil s'imposera à nouveau largement. Partout ailleurs, le temps alternera entre éclaircies, nuages, averses et parfois des orages. Précision par ailleurs que dans le Puy-de-Dôme, l'Allier en cru reste en vigilance orange. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.